Attends. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Avant de commencer, on va faire une petite intériorisation. On va fermer les yeux et essayer de rentrer dans ce silence. Il y a des gens qui ont des outils, des mantras, ils peuvent le faire, sinon on essaye de se syntoniser intérieurement. Je sais, c'est pas facile, mais quelques minutes. Ferme doucement les yeux. Prenez conscience de votre corps. Ce corps qui est un hologramme. Tout à l'heure, on va l'expliquer. Prenez conscience à travers la respiration. Essayez en douceur, sans effort, d'être conscient de ce corps. Essayez d'être conscient de ce corps. Gardez cette conscience en douceur et ouvrez doucement les yeux. C'est pas facile d'être conscient de ce corps. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce corps? Comment on peut le définir? La médecine a essayé de définir ce corps comme étant un ensemble d'organes. Mais comment on peut le définir réellement? À travers quel mécanisme on peut définir le corps? Quand je vois un corps, je le vois à travers mes organes neurosensoriels, comme si je vois un objet. Mais cet objet, est-ce que la perception de cet objet est réelle? Est-ce qu'elle est partout la même? Je prends un exemple. Si une chauve-souris va voir une fleur, elle va l'interpréter à travers son système neurosensoriel comme étant un ensemble d'ultrasons. La fleur pour la chauve-souris, c'est des ultrasons. Pour l'abeille, c'est un nutriment. Pour l'homme, c'est une fleur. Mais quelle est la vraie nature de la fleur? Indépendamment de l'observateur. Quelle est sa vraie nature intrinsèque? On ne sait pas. On ne peut pas dire qu'est-ce que c'est. C'est la même chose avec ce corps. Ce corps est un ensemble de cellules, lesquelles sont un ensemble de molécules. Les molécules, c'est un ensemble d'atomes. Mais quand on voit un atome, c'est une mouvance d'énergie, d'information. Un atome, c'est de l'énergie, de l'information. C'est un champ. C'est de l'espace énergétique et informationnel. Et ce corps, c'est un espace énergétique et informationnel qui va se condenser à chaque moment à travers ma prise de conscience. Quand je pense, je donne forme à mon corps. Je le structure à travers mes pensées. La physique quantique nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que ce corps change pratiquement 99% de ses atomes chaque année. 3 mois, après 3 mois, on n'a pas le même foie. Après 6 semaines, on n'a pas la même ADN.
Soi-disant l'ADN qui est un substratum solide, absolu.
Mais il n'a rien d'absolu. Il est hyper changeant. Tout le corps se modifie. On est non, le corps a complètement changé ses atomes. À tel point, je ne suis plus le même. Mais on peut se demander une question complètement logique. Pourquoi quelqu'un qui est malade, il a changé tous ses atomes et il restera malade? Par quel mécanisme? Sur le plan quantique, c'est un non-sens. Tout a changé. Simplement, cette pensée qu'on appelle le mental cristallise les processus à travers la croyance. Parce qu'on est des hormones de croyance. On est des structures de croyance. Une hormone, c'est une sécrétion qui va circuler au niveau du sang. Mais c'est la même chose, la croyance à cette structure. On croit qu'on va devenir malade, on devient malade. Il y a un sutra védique qui dit, un sage, un rishi, qui a dit la chose suivante. Si on n'a pas observé l'autre qui devient malade, on ne deviendra jamais malade. Si on n'a pas vu l'autre qui meurt, on ne mourra jamais. Ça veut dire que cette résonance de transfert à travers une croyance me structure. Je deviens ce que je pense. Parce que je cristallise un état figé au niveau de mon mental. La médecine n'est pas quantique. Malheureusement, le corps est quantique. Qu'est-ce que ça veut dire quantique? Deux mots simples, hyper changeant et discontinu dans le temps. Sans rentrer dans les détails scientifiques. Le quantique, c'est le changement en permanence et la discontinuité. Qu'est-ce que c'est que la discontinuité? Eh bien, c'est l'aspect de va-et-vient. L'aspect que je clignote. Apparemment, vous m'observez d'une façon continue. Mais en réalité, j'apparais et je disparais. C'est ça le mouvement quantique, la discontinuité. Chaque particule va apparaître au niveau de ce champ de toutes les possibilités qu'on appelle le champ unifié, le champ quantique, et elle va disparaître. C'est un vortex. C'est une mouvance. La vie est une mouvance discontinue. C'est-à-dire que ce corps qui est devant moi est une discontinuité temporo-spatiale. Je le vois comme étant une continuité à travers une croyance maintenue par l'éducation, le conditionnement et les dogmes et la religiosité dogmatisée et dogmatisante. Ça veut dire, au lieu de m'expanser dans la liberté, je me réduis dans la croyance. La croyance est réductionnelle. La nature de l'homme est expansive, et liberté, et amour, et développement. Alors qu'est-ce qu'on voit maintenant? L'inverse, dans la contraction, dans la douleur de l'intériorisation, sans pouvoir s'extérioriser d'une façon réelle, et l'hypercondensation au niveau de notre être, où nous oublions ce qu'on est. L'oubli de ce qu'on est réellement. On a oublié notre vraie nature. Mais quelle est notre vraie nature finalement? Quelle est cette nature qui m'échappe pour que je puisse devenir cet être condensé dans un corps éphémère? Pour quelle raison je ne suis plus relié avec ma nature? Je m'identifie avec un corps changeant sans être en relation avec ma vraie nature, qui est ce champ d'énergie, d'information omniprésent, omniconscient, omnipotent, de toute puissance. La conscience de l'homme, dans sa nature réelle, matricielle, est une nature omnipotente, pleine de possibilités. mais dans sa nature éphémère, localisée dans le corps changeant, est une nature périssable. Et il faut faire un choix. On a choisi de s'identifier avec une croyance, d'être dans la mouvance de la fixité, au lieu d'être dans la mouvance du changement, connecté à la source du changement. Parce que ce changement a une source. Et la source du changement, un état non changeant. Quand je prends conscience de ma nature changeante, en déconnexion avec ma nature d'absoluité non changeante, la souffrance commence. Mais quand je prends conscience que je change, je suis un être hyper changeant. Mais derrière, il y a un substratum non changeant. Et ce substratum doit être révélé à ma conscience. Ce n'est plus une approche verbale. Il faut que ça soit réellement intégré dans ma conscience. Le substratum non changeant, il faut qu'il soit réellement intégré dans ma conscience. Ce n'est pas un dicton philosophique, c'est un travail intérieur qui doit s'activer pour que cette phrase devienne une réalité manifestée. On n'est plus dans la croyance. Il faut qu'on arrive à structurer ces choses au niveau physiologique. Ce corps est une mouvance projetée d'une réalité d'un autre monde. Je m'explique. Ce corps qui est hyper changeant, qui est discontinu dans le temps et l'espace, et je m'identifie avec ce corps, mais d'une façon continue, à travers mon mental, je le fixe. Lui, il change, et moi, je le fixe. À tel point, on peut vous donner une photo. Votre photo de l'âge de 5 ans, vous n'êtes plus le même. Ce n'est que le mental qui va relier cet événement 5 ans avec les événements que tu vis maintenant. Mais il n'y a aucune relation physiologiquement parlée entre ces deux êtres. Il y a un changement capital, intégral. Chaque année, je ne suis plus le même. Mais le mental crée les ponts de continuité. Mais quelle est ma vraie nature? Pourquoi je suis venu? Pourquoi je me suis intégré, incarné dans ce corps? Qu'est-ce que je viens faire dans ce corps? Puisque je suis l'illimité, le substratum absolu, pourquoi je vais m'aventurer dans l'éphémère changeant? C'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, mes chers amis, il y a quelque chose de fondamental dans cette question. Je vais vous annoncer la réponse, mais on va la démontrer. On est déjà mort. Ce corps est une image, c'est un hologramme. On est déjà dans une autre dimension. Et vous allez me suivre. Ça va être intellectuel maintenant. Mais si on fait l'atelier demain, on vous donnera des outils pour que cette intellectualisation s'intègre, pour que l'événement devienne une réalité. On est déjà mort. Ça veut dire quoi, cette phrase? Merci. Si je prends le fameux processus d'apparition et de disparition, qui est l'état quantique par excellence de chaque particule, j'apparais et je disparais. C'est-à-dire, je clignote, allumé, éteint. La dialectique du vortex, c'est-à-dire je vais apparaître dans une sphère, je me canalise dans un canal pour disparaître dans une autre sphère. C'est ça le vortex, c'est un mouvement. Il se trouve que chaque résonance cosmique, quelle que soit sa nature, quel que soit l'événement, il est sous-entendu, il est propulsé à travers un vortex. Tu vois une particule, c'est un vortex. C'est-à-dire, elle va apparaître, et elle va se canaliser, et elle va disparaître en rotation. Un processus rotationnel, en permanence. Le corps fait la même chose. Il apparaît,
et il va disparaître en passant par un canal jonctionnel entre l'apparition et la disparition. Et puisque ce corps est un processus dans le monde relatif, il est projeté dans ce qu'on appelle le phénoménal changeant. Je prends conscience de ce corps, il est dans le phénoménal changeant. Sa nature réelle, il est dans un canal. On va expliquer progressivement le processus. Mais je vous pose maintenant, je mets les événements. Après, on va les détailler. La nature réelle de ce corps est condensée dans un canal de passage. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui est mort. Il va rentrer. Les NDE, c'est ça, ils ont décrit le passage à travers un canal de lumière. Il rentre dans un canal de lumière. Il se condense dans la lumière. Et là, il y a trois événements qui vont apparaître. Si vraiment l'individu est mort, il lui faut une énergie, information tellement subtile pour qu'il puisse sortir dans l'autre univers qu'on appelle l'univers réel. Puisqu'il lui faut de l'énergie et de l'information, il va y avoir un événement capital, c'est-à-dire il va se projeter dans un monde phénoménal pour venir, il va envoyer une image, pour venir accéder, pour avoir l'énergie qui lui manque et l'information qui lui manque. Donc on est déjà ici pour acquérir une énergie-information qui lui manque pour passer vers notre réalité. On est dans un canal, l'essentialité est dans un canal, la projection est dans le monde phénoménal qu'on vit actuellement. Essayez de suivre cette phrase. Ce corps est une projection, c'est une image d'une réalité qui est bloquée dans un canal de passage. Et cette réalité nous envoie pour qu'on puisse corriger des choses, pour qu'on puisse acquérir de l'énergie, de l'information, pour qu'on puisse rentrer chez nous. Tant qu'on n'a pas compris les événements, on n'aura pas l'énergie nécessaire pour accéder à cette impulsion quantique, à ce saut quantique, pour qu'on puisse rentrer dans la résonance réelle de notre être-té. Ça veut dire que ce message qui nous parvient à chaque instant de notre réalité non manifestée. Il nous envoie en permanence des messages pour qu'on puisse réaliser la bonne expérience, pour qu'on puisse avoir la bonne énergie, la bonne information qui va nous servir pour qu'on puisse sortir du canal. C'est comme un nouveau-né. Il reste bloqué dans le canal. Et là, une fraction de seconde, ici, c'est l'équivalent des années, des va-et-vient, des milliers d'années. C'est la relativité temporale, temporo-spatiale, au niveau du passage du canal. Ça veut dire que ce corps est une projection, c'est une image. La réalité, elle est dans le canal. Et cette réalité attend qu'elle soit nourrie par une énergie-information pour qu'elle puisse circuler vers l'autre univers réel. C'est pour ça, dans toutes les traditions, on parle du Maya, ce corps est Maya, c'est une illusion. Bien sûr, c'est une projection, mais une projection qui a un sens. On ne va pas dire ce corps est Maya, c'est une projection. Au contraire, je dois la comprendre, et je dois l'intégrer, et je dois essayer d'être conscient pourquoi je me suis projeté. Quelle est la vraie expérience que je dois vivre? Il se peut qu'une personne ait besoin d'une petite expérience pour être dans le passage, sans utiliser les énergies d'information d'une grande ampleur. Il suffit parfois d'une petite étincelle pour que le processus soit déclenché. La réalité, elle est bloquée dans le canal. Nous, on est dans la projection. essayer de vivre cette réalité. Ce corps est une image, c'est un hologramme. La science parle de l'hologramme. Qu'est-ce que c'est qu'un hologramme? C'est une projection en trois dimensions d'une réalité. Eh bien, ce corps est un hologramme d'une réalité qui restait bloquée dans un canal de passage. On est déjà mort. On est condensé dans le canal. Et on est venu comprendre les événements, pourquoi on n'est pas passé. Un langage simple. On est dans... Toutes les traditions parlent de ce passage. Christ a beaucoup parlé de passage. C'est comme l'aiguille. Le petit trou d'une aiguille, le chat d'une aiguille. C'est ça le passage. Bien sûr, c'est à travers la projection. Qui se projette? Bien sûr, l'ADN qui se projette. Parce que c'est elle qui va se structurer dans la résonance projectionnelle. Et ce corps se trouve maintenant dans ce qu'on appelle le monde phénoménal. Il est en train de vivre des expériences. Il est en train d'acquérir des choses. Bien, c'est très bien tout ça. Mais tant qu'on n'a pas intégré trois choses essentielles, on ne peut pas passer le canal. La tradition insiste sur ces trois éléments. Le premier, c'est l'unicité de la création et de la source. Si on croit à deux sources, on n'aura jamais l'énergie et l'information nécessaires pour traverser ce canal. La nécessité, dans le soufisme et dans l'advaïta, c'est une évidence, l'unicité de la source. Mes chers amis, c'est l'alpha et l'oméga du processus créationnel. Il se peut qu'on est là parce qu'on a cru à deux sources, et on revient pour intégrer l'unicité de la source, pour avoir cette expérience. Parce que l'unicité de la source est une chose fondamentale. Deuxième critère. L'effacement. L'énergie de l'effacement. Qu'est-ce que c'est que l'énergie de l'effacement? Tant que tu as quelque chose dans ta conscience, une problématique par rapport à l'autre, tu n'as pas effacé l'événement, quelle que soit sa nature, tu n'auras pas l'énergie du passage. Apprenez à effacer les événements. C'est-à-dire à subtiliser les mémoires. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On garde toujours les choses en mémoire. La haine, c'est une mémoire. On n'arrive pas à effacer. La colère, on n'arrive pas à subtiliser tout ça. Pourquoi? Parce qu'on fait une fixité. On devient cette colère. On devient cette haine. Parce qu'on a oublié les mécanismes de l'effacement. Un petit enfant, il a ses mécanismes. Mais malheureusement, l'éducation l'a structuré dans le non-effacement. Il garde au départ, il a un processus d'oubli, d'effacement spontané. Il est en colère et spontanément, la colère s'efface. Mais nous, si on est en colère, ou bien on va l'intégrer intérieurement, on va la vivre intérieurement, et parfois ça persiste des années et des années. Donc la nécessité d'activer un processus qu'on appelle l'effacement matriciel. Et le troisième niveau, qui est très important, c'est l'énergie spécifique à chacun. Chacun est venu, à travers cette projection, pour vivre une expérience personnelle. Et c'est ça qu'il faut qu'il découvre. Pourquoi? Personne ne peut vous dire quelle est cette expérience. C'est à travers votre vécu, votre conscience, cette aventure qui va se manifester au niveau du phénoménal. Chaque geste doit être intégré dans la conscience. Parce que, qu'est-ce qu'un être spirituel? C'est pas quelqu'un qui va rester isolé en montagne ou rester comme un moine. Un être spirituel, c'est qu'il va activer sa conscience dans la plus petite chose qu'il va faire. Le plus petit travail simple. En train de faire un travail simple. S'il peut activer sa conscience, il est dans la spiritualité de l'impulsion. C'est la conscience qui cristallise la nature de l'événement. Et ce n'est pas les apparences, c'est la conscience. Donc vous voyez, le tableau se dessine. On est des êtres projetés, des hologrammes, des images, dans un corps, des robots biologiques projetés, de cette source qui est restée plus ou moins bloquée dans le canal. Parce qu'il lui faut une énergie, une information pour qu'elle puisse rentrer dans sa nature réelle. C'est le semblable qui attire le semblable. Tant qu'on n'a pas intégré cette énergie, information, on va encore mourir, et on va passer le canal, et on va encore manquer d'énergie, d'information, et on va se projeter pour apprendre. C'est pour ça que la vie se mesure par la nature de l'expérience et le potentiel énergétique et informationnel de l'expérience, et non pas par les apparences. Tant qu'on n'a pas compris les mécanismes, on reste toujours dans la mouvance d'un déficit énergétique et informationnel. On ne peut pas accéder à notre réalité, à notre demeure. Et c'est ça, finalement, la problématique de la fin d'un cycle. Qu'est-ce que c'est que la fin d'un cycle? C'est que ce mouvement va s'arrêter. Ce mouvement s'arrête. Eh bien, s'il s'arrête, on va faire le bilan global. La fin d'un cycle, c'est le bilan global de ce qui s'est passé. Si on n'a pas réalisé notre vraie nature, on reste bloqué dans le canal. Bloqué dans un canal de lumière, certes. C'est un canal de lumière. Mais c'est toujours quelque chose qui manque au processus évolutif. La fin d'un cycle, c'est la phase globale qui va terminer le processus. On vit la fin d'un cycle. Donc, les événements vont s'arrêter et il est urgent d'intégrer les énergies informationnelles pour qu'on puisse accéder à notre vraie nature. Puisque ce corps est hyper changeant, puisque ce corps est une impulsion d'image, c'est un hologramme, ce corps ne possède pas la réalité en soi. La réalité réside dans un autre processus. Donc, essayez déjà de visualiser intérieurement que ce corps est une impulsion image. C'est pas facile. On a tellement structuré ce corps, on l'a tellement pris en charge, on s'est identifié avec ce corps pendant des années, des milliers d'années. La conscience collective croit que ce corps, c'est sa réalité. Chaque matin, quand on se voit devant une glace, on se dit « je suis ce corps ». La phrase qui peut être plus explicite, « ce corps est en moi ». Je ne suis pas ce corps, ce corps est en moi. Et on a même éduqué nos enfants dans cette prise, dans cette croyance. C'est une croyance. On n'est pas ce corps. Ce je doit voyager vers sa vraie nature. Je ne suis pas ce corps. Je suis la source qui attend une énergie, information pour qu'elle puisse rentrer dans sa globalité globalisante. Donc vous voyez la nécessité de mettre en pratique maintenant, c'est ce qui est essentiel. Avant je donnais la formation en 4 week-ends, beaucoup de théories, beaucoup d'explications. Après j'ai réduit en 2 week-ends parce qu'on est seul week-end. Maintenant j'ai dit il faut faire vite, en une journée je donne les outils, ce que j'appelle l'atelier formation. Et les outils de cette approche matricielle qui sont les outils du soufisme et de l'advaïta, qui sont des mécanismes pour qu'on puisse structurer ces trois éléments de base, l'unicité, l'effacement et l'ouverture énergétique et informationnelle de notre réalité, de notre propre expérience. Parce qu'on n'est pas là par hasard. On est venu vivre une expérience particulière
pour ramener une énergie-information particulière et libérer l'impulsion qui est condensée dans le canal. Toutes les traditions, si vous voyez, si vous contemplez, vous faites une lecture fine, toutes les traditions disent qu'on est déjà mort. Qu'on est déjà mort. Dans le soufisme, c'est très subtil. Dans l'advaïta, c'est le maya. On est déjà dans le passage. Simplement, on vient par miséricorde divine, on vient pour intégrer une énergie information qui va nous servir pour passer dans l'autre sphère. C'est très important de comprendre ce mécanisme. Et la physique quantique nous aide. La science nous aide maintenant. La science, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, ce corps, c'est de l'énergie de l'information. Puisque c'est un ensemble d'atomes. Elle nous dit, c'est de l'énergie de l'information. Et cette énergie-information va se propulser à travers des vortex. Chaque cellule est un vortex. Chaque cellule va prendre ses informations de la réalité qui se niche dans le grand vortex qui lui a donné naissance. À tel point que ce corps image lui-même est un vortex. C'est-à-dire, un vortex, c'est une discontinuité temporo-spatiale et un clignotement dans le temps. J'apparais et je disparais. C'est une rotation énergétique avec un passage à travers le canal. Vous voyez, la structure se met en place, mais malheureusement, elle est intellectuelle. Je vous donne des idées, mais c'est très intellectuel. Ça reste des phrases, des idées. Comment faire pour passer de l'idée à la réalité? Comment faire pour intégrer que je suis déjà mort, je ne suis pas ce corps, c'est une projection, c'est une image? C'est une idée philosophique, certes. Séduisant, peut-être. Mais comment je peux faire pour réaliser cette réalité? Toutes les traditions disent la même chose. Les vrais chrétiens, ils ont beaucoup insisté sur ce passage qu'on est déjà mort. La résurrection, c'est ça. Lorsque tu vas intégrer l'énergie, l'information, et tu passes le canal à travers cette énergie-information qui te manque. Donc, la nécessité de passer de l'aspect verbal à l'aspect intégré. Il faut qu'on intègre cet événement au niveau de notre conscience. Simplement, il y a un handicap majeur au niveau de la structure de notre cerveau. Et des millions d'années d'apprentissage et des milliers d'années de croyances qui ont propulsé ce qu'on appelle le cerveau limbique dans les phases de la répétition et de l'erreur. Le cerveau aussi, c'est un vortex à 3 étages. Et le limbique est un vortex tellement important que c'est lui finalement qui va nous mettre en permanence dans la répétitivité de l'erreur. C'est-à-dire, au lieu d'expérimenter et de choisir une expérience adaptée à ma vraie nature, je répète les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le fait de répéter la même erreur, soi-disant, nous fait éviter cette notion qu'on appelle la peur. J'ai peur de traverser la rue de cette façon. Je me rappelle que hier j'ai traversé d'une autre façon, je prends toujours la même voie. Par besoin de sécurité et par peur. Je répète les mêmes expériences parce que j'ai peur de faire quelque chose de nouveau, et le nouveau dans ma conscience est synonyme à la peur, à l'insécurité. Et je reste dans ma nature réductionnelle. Je répète les mêmes événements. Et ça, c'est le cerveau physiologique, limbique, qui me dicte cette croyance. Et c'est une croyance nichée dans l'inconscient profond du corps. Et le cerveau limbique prend en charge de réaliser cette soi-disant vérité. L'homme, il est de nature peureuse. Il a peur de l'inconnu. Peur de tout ce qui est nouveau. Peur de tout ce qui va perturber soi-disant sa sécurité. Donc il se restreint, il devient réductionnel, il va tourner. Et il va tourner dans un vortex limbique fait des mêmes expériences. Les mêmes, à des petits changements près. Et c'est pour ça que notre vie, si on la voit de près, c'est un ensemble de réflexes. On est des êtres, des automates. Je me réveille le matin, je fais ce que j'ai fait hier. Et j'essaie de faire la même chose au maximum. Si je change, il y a quelque chose. Le limbique dit, attention, si tu changes, tu peux avoir des surprises. Le limbique nous poursuit en permanence pour répéter les mêmes mécanismes, pour nous enterrer dans un processus répétitif de réflexe, à tel point qu'on est devenu des automates, des êtres réflexes, au lieu d'être des êtres de réflexion. Il n'y a plus de conscience quand il y a la répétition et l'automatisme. La conscience se perd. Et quand il n'y a plus de conscience, il n'y a plus d'expérience. Donc il n'y a plus d'énergie d'information. Donc il y a une stagnation. Donc il y a un problème majeur. Même la notion de maladie prend naissance dans ce processus. Répéter les mêmes structures. Et des gens qui sont malades, ils ont peur d'être encore plus malades, ils conservent leur maladie. Parce qu'ils se comparent à d'autres. Et parce que le limbique fige les événements, répète les choses, il a peur de changer, la peur du changement. Alors que notre corps change en permanence. C'est ça le vrai paradoxe. Il change en permanence malgré la structure hyper fixante du cerveau limbique. Donc vous voyez, j'ai essayé de condenser au maximum, mais l'idée principale, c'est que ce corps est une image. Il est entretenu par le cerveau limbique, qui lui-même est un vortex dans la répétitivité et le réflexe. En même temps, ce corps-image est une projection d'une réalité qui est nichée dans un vortex cosmique. Et cette réalité attend qu'elle soit nourrie par une énergie information pour qu'elle passe vers les structures évolutives. Donc, on est des structures inachevées. On est une grande symphonie qui n'est pas encore terminée. Il nous faut une énergie d'information pour qu'on puisse réaliser notre vraie nature. Bien sûr, le New Age parle « je suis divin » ou « on est divin », mais il faut réaliser ce mot, le potentiel réel de ce divin. Il ne manque la connexion avec notre essentialité. Après, on peut dire « je suis divin ». Mais si je le dis en tant que créature inachevée, je suis dans l'hypocrisie limbique. Mes chers amis, c'est nécessaire d'ouvrir notre conscience maintenant sur cette réalité qu'il nous faut trois éléments de base. Structurer l'unicité dans notre conscience. Bien sûr, la religion parle de l'unicité de Dieu unique, mais la religion structure le non-sens à travers un sens. Tant qu'on a trois cerveaux éclatés, on ne peut jamais parler de l'unicité. Le reptilien envoie des messages, le limbique répète les événements, le néocortex fait autre chose, on est éclaté. Où est-ce qu'il y a l'unicité dans notre cerveau pour qu'on puisse appréhender l'unicité? D'abord, structurer l'unicité sur le plan physiologique. C'est ça l'essence. Quand quelqu'un, un imam ou un rabbin ou un prêtre parle d'unicité, il faut d'abord qu'il la structure sur le plan physiologique. Sur ces trois cerveaux, une harmonisation, sans qu'il y ait de d'ordre. C'est ça l'unicité divine. Structurer le physiologique
Après, l'impulsion cosmique va s'installer parce qu'on a donné les substratums physiologiques pour que la réalité prenne forme. C'est le premier élément fondamental.
Le deuxième, c'est l'enseignement du Christ. C'est le pardon cosmique. C'est l'effacement. Et il faut le structurer sur un plan physiologique aussi. Il ne faut pas que ce soit une parole. Le pardon, c'est l'effacement matriciel. C'est-à-dire l'effacement à l'intérieur des mémoires toxiques et qui sont nichées dans le cerveau limbique. Il y a des outils pour le faire. Il y a deux façons. Il y a la façon intériorisée, intériorisable, qu'on appelle méditation, les sutras qu'on peut développer dans l'atelier. Demain, on peut faire un atelier. Ou bien il y a la façon objective à travers des structures qu'on essaie de mettre en place comme des énergies, des machines. Parce que on vit une époque scientifique. Et la science nous aide pour comprendre les choses. Il ne faut pas rejeter la science. Les énergies subtiles peuvent être objectivées maintenant. On peut les objectiver. On a des moyens pour que cette énergie subtile extralimbique, parce que pour moi, tout ce qui est énergie grossière est une énergie de la répétitivité limbique, de la mémoire toxique, c'est une énergie magnétique. Le magnétisme, c'est la mémoire. C'est pour ça que dans la formation, on parle du voile. Pour nous, le magnétisme est un voile. Chaque cellule est imprégnée d'un voile magnétique qui est structuré dans la mémoire. Chaque mémoire est un voile qui me cache la réalité de l'instant. Si j'ai des mémoires, ils vont voiler ma vision. Je vais me propulser dans le passé à travers mes mémoires. Si j'actualise mes mémoires, je ne vis plus. C'est le passé qui vit en moi. Donc je dois effacer ces mémoires. Et la mémoire est un mécanisme magnétique. On peut faire toute une formation sur ça. Mais l'essentiel pour nous maintenant, c'est de comprendre qu'on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas subtilisé ces mémoires. Si je garde en permanence des mémoires toxiques, de répétitivité, l'instant présent est caché. Ou bien je suis dans le passé, ou bien je me projette dans le futur. Il n'y a aucune vie dans ce mécanisme. Ce mécanisme est complètement teinté d'une énergie archaïque et d'une information perverse qui ne peut pas me servir pour aller faire mon saut quantique. Donc, la réalité, c'est de toucher cet effacement cosmique et de structurer la subtilité des mémoires à travers le cerveau. Le cerveau, c'est le lieu, le substratum qui va attirer les mémoires. Mémoire, c'est magnétique, c'est spatial. Elle n'est pas localisée, localisable. Elle est hologrammique. Elle est partout. Je peux sentir une odeur, activer une mémoire. Je peux avoir une vision, activer une mémoire. Et la mémoire n'est pas localisée un niveau, dans une zone précise, elle n'est pas localisable. La mémoire est diffuse et elle est discontinue aussi. Donc la nécessité pour que je puisse appréhender le réel de l'instant, de ne pas être voilé par mes mémoires. La mémoire est un voile. Pour que je puisse réellement expérimenter l'instant présent, l'effacement s'impose. Troisième niveau, c'est rechercher l'expérience qui m'a propulsé à faire cette expérience dans ce corps image. Pourquoi je suis dans ce corps image? Et chacun a une réponse spécifique. Celle-là est très spécifique. Les deux autres sont généralisées. Mais la troisième est hyper spécifique pour chacun. Chaque personne est venue pour faire une expérience, peut-être une petite expérience, un petit pardon quelque part, un petit don quelque part. Une expérience, quand on a pris ce corps image, qu'on appelle s'incarner, mais ce n'est pas une incarnation dans le sens classique, c'est une projection. On ne s'incarne pas, on se projette. Il n'y a rien à incarner. Il y a une projection qui se fait dans un corps image. Et cette projection, pour l'approche matricielle, doit répondre à trois critères. L'unicité, l'effacement et la recherche de l'expérience spécifique. C'est les trois valeurs qu'on peut essayer de mettre en marche. Et justement, dans l'approche matricielle, on donne des outils. Il y a d'autres outils, mais dans l'approche matricielle, ce sont des outils de soufisme et de l'advaïta, sous forme de sutra, de mantra, de résonateur, pour qu'on puisse réveiller notre conscience et transcender le limbique, aller au-delà du limbique, pour qu'on puisse prendre conscience de notre réalité. C'est des outils comme d'autres peuvent proposer d'autres outils. Ce n'est pas des outils universels. Rien n'est universel, mes chers amis. Il ne faut pas tomber encore dans cette erreur. Je possède la vérité, c'est pour tout le monde. Ça, si je vous dis ça, prenez la porte. Ça. Rien ne peut être généralisé. Il y a des outils qu'on va vous présenter. Ça peut être utile pour vous comme autre chose, vous êtes fait pour autre chose, vous cherchez une autre ouverture, un autre vortex. Mais ce que j'ai remarqué à travers maintenant des années de formation, de conférences, quand même, il y a des gens qui ont intégré ces outils, ils ont fait énormément de choses et ils ont énormément intégré leur réalité. Je pense que c'est une possibilité. Et ces outils peuvent subtiliser le limbique et ils peuvent aussi nous ramener vers cette conscience qu'on a perdue. Au lieu d'être en permanence dans l'aspect réflexe, on va faire naître au niveau de notre conscience ce qu'on appelle l'observateur, cette réalité qu'on a perdue. Au lieu de vivre en permanence dans la dualité, on va progressivement se structurer dans la dualité et actualiser l'observateur qui va, lui, nous propulser vers l'unicité. Donc c'est un travail, attention, un travail pas dans le sens limbique, il n'y a pas d'effort dans ce travail. Parce que le mot qui est complètement recherché par le cerveau limbique, c'est l'effort. Je dois travailler pour vivre, je dois fournir de l'effort. C'est un état de non-effort qu'on a oublié. La transcendance sans effort. Et ça, c'est donné à travers les outils de l'approche matricielle. Il y a d'autres outils, mais je vous propose les outils de l'approche matricielle qui sont la tradition de l'Advaita, les Vedanta et le soufisme. Si vous voulez une petite définition de soufisme, on peut dire que c'est la tradition vivante qui va essayer d'harmoniser l'image avec sa source et de structurer l'image pour qu'elle puisse redevenir le substratum de la réflexion de la source. Parce que maintenant, l'image ne répond plus. Elle ne reçoit plus d'informations, elle est hermétique, elle est voilée, elle est dans un voile. On reçoit en permanence des impulsions de notre réalité canalisée, mais on n'arrive plus à décoder les messages. Il y a les rêves, quand on dort la nuit, on fait un voyage nocturne vers cette réalité. Mais on n'arrive plus à décoder les messages, on n'arrive plus à retrouver le sens, à travers cette diversité parce qu'on est complètement voilé. Notre conscience est piégée par ce voile. Voile qui est structuré dans la mémoire. La mémoire est un voile. Donc vous voyez que tant qu'on n'a pas compris qu'on est une image projetée, je pense qu'on va encore répéter les mêmes événements. Et là, ça demande énormément parce que c'est des mécanismes qui sont enfouis dans notre inconscient. C'est des années de conditionnement. Qu'on est ce corps, que je suis ce corps, ma réalité est ce corps. Je me rappelle de l'enseignement de Ramana Maharishi, qu'est-ce qu'il disait ? Qui suis-je ? Tu vas dans l'ashram de Ramana, tu restes et tu te poses pendant des années la question « Qui suis-je ? » Et quand tu réalises qui tu es, tu vas voir la réalité non manifestée qui va se révéler à ta conscience. Mais l'enseignement de Ramana, c'était « Qui suis-je ? » De structurer cette question, de la vivre, pas au niveau intellectuel, de l'intégrer, de la transcender. Mais pour nous maintenant, il faut des mécanismes, des outils pour qu'on puisse arriver à transcender, à réaliser ce qu'on est réellement. Pas facile. Intellectuellement, on peut décrire des mécanismes. Au départ, je me suis dit, je suis quand même un scientifique, un médecin de formation, j'étais directeur d'un laboratoire, j'ai fait beaucoup d'années de recherche, ben je ne vais pas m'orienter d'une façon comme ça au niveau spirituel, donner des outils, des traditions, je vais chercher un moyen psychologique et psychosomatique pour appréhender cette réalité. Et j'ai commencé un petit peu, mes premières conférences étaient à Montréal, en essayant de monter un système psychologique. J'ai vite réalisé qu'on ne peut pas aller à travers la visualisation, à travers des techniques mentalisées, ne peuvent jamais appréhender la transcendance. C'est un jeu de la pensée, un jeu du limbique. On se piège. Mais parfois, on vit des expériences étalées dans la mouvance de la paix. Mais c'est un leurre tant qu'on n'a pas réalisé que le mental ne peut engendrer que sa nature. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Le mental ne peut pas donner la transcendance s'il ne la connaît pas. Donc il faut d'autres outils qui ne sont pas mentalisés. Donc j'étais obligé de faire appel à la tradition. Et c'est ça, j'ai structuré un modèle que j'appelle l'approche matricielle. Et dans ce modèle, il y a ces éléments pour qu'on puisse réaliser ce passage et libérer notre réalité canalisée qui est restée bloquée dans le canal. On est une grande symphonie cosmique inachevée. Merci mes chers amis. Et je vous laisse poser des questions. Parce qu'à travers les questions, on peut encore progresser dans le débat. Oui, Habiba.
L'activation du limbique, puisque je travaille sur ça,
la
boucle gamma, permet justement d'enlever les peurs,
tout à fait.
De connecter
au néocortex,
aux trois cerveaux, et justement d'être dans la présence.
Tout à fait.
Donc je pense que
tout à fait, c'est pas, attention, quand je parle du limbique, c'est pas en termes de choses mauvaises, c'est un constat. Lui, il répète, c'est sa nature.
Il y a des noyaux
dans le... Il y a des noyaux, bien sûr, bien sûr. Il y a des noyaux, il y a des structures. Il y a des passages, il y a des fluctuations. Oui, il y a la plasticité, heureusement, il y a la plasticité nerveuse qui va pouvoir faciliter. Et bien sûr, lorsqu'on travaille, on a des outils à ce niveau, il peut y avoir des passages, heureusement, heureusement. Mais le vrai passage que j'essaye de vous faire partager, c'est cet état de transcendance. C'est cette intériorisation, c'est ces outils qu'on peut intégrer et subtiliser le limbic. Bien sûr, le limbic a un rôle fondamental. On n'est pas là pour juger. On constate qu'il fait telle chose, mais on a besoin d'activer le néocortex. Et l'hypothèse principale de l'approche matricielle, ce n'est pas le néocortex neuronique, c'est le néocortex axé sur ce qu'on appelle les astrocytes, et qui sont des résonances en connexion avec l'énergie noire et la matière noire de l'espace. C'est-à-dire ces cellules qui sont de 90% plus importantes que les neurones. C'est comme l'ADN poubelle. Ces cellules qui sont hyper importantes, c'est à travers ces cellules qu'on peut rentrer en expansion avec l'univers. La matière noire dans l'univers est responsable de l'expansion de l'univers. Parce que dans la théorie d'Einstein, normalement l'univers doit se rétracter. Mais maintenant, surprise, il est en expansion permanente parce qu'il y a ce qu'on appelle la matière noire. Et cette matière noire est connectée à notre cerveau à travers les astrocytes, qui sont des cellules nourricières, mais qui ont la possibilité de réveiller en nous un état de dévoilement. Ils sont plus importants. Donc le cerveau est équipé pour vivre des réalités autres que la réalité figée au niveau de l'éphémère. Bonne question, Habiba. Merci. Oui. La fin d'un cycle. C'est à la mode maintenant de parler de 2012, ce qui va se passer. Alors là, je crois que, au départ, j'ai commencé par une phrase. J'ai dit qu'on devient ce qu'on croit. On devient ce qu'on pense. Et c'est la même chose au niveau de la conscience collective. Cette conscience collective va former une matrice globale et globalisante. Elle la forme. Et cette conscience collective, quand elle va se structurer dans une croyance X, la croyance se réalise. Si on commence à croire ensemble qu'il va y avoir des catastrophes, on va activer les catastrophes. Parce qu'on a un potentiel pensée énorme. C'est une force énorme. Donc, au lieu d'expliquer la chose suivante et dire à chaque personne, tu es libre à chaque instant, et tu façonnes ton futur. Personne n'a la possibilité de tripoter ton futur. Tu le crées en permanence. C'est pour ça que parfois les médiums, en certains cas, est un danger parce qu'ils te cristallisent dans un futur bien établi. Tu vas vivre ça, ça, ça. Elle te cristallise. La pensée est quantique aussi. Quand elle prend cette structure quantique, il la stabilise et la fixe au niveau temporo-spatial, et tu vas rétablir ce qu'il est en train de dire. Au lieu de rester dans notre liberté, on est des êtres libres, et chacun est libre dans sa nature. Maintenant, au niveau de la conscience collective, c'est la même chose. Si on commence à dire qu'il va y avoir des événements catastrophiques, on va surcharger le potentiel futur, eh bien, on va le créer. Donc, essayez d'être attentif et conscient. Ne pas projeter quoi que ce soit, parce que tout ce qui va se passer, c'est dans l'imprévisible. Personne ne peut prévoir quoi que ce soit. وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ. Un sutra qui le dit. Personne ne peut prévoir quoi que ce soit. L'être dans sa nature essentielle, il a la connaissance globale et absolue, seul l'être. Et cet être, où est-ce qu'il est? Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Le sutra qui le dit, c'est le soufisme qui dit ça. Donc tu possèdes cette connaissance absolue, mais en potentialité. Tant qu'on n'a pas achevé notre évolution, on ne peut pas prétendre. Une énergie information pour qu'on puisse harmoniser notre réalité et compléter notre lumière intérieure par l'expansion réelle de la conscience illimitée de nous. Bonne question, Hamid. Merci. D'autres questions ?
Si tu n'as pas compris, c'est parce qu'en toi, il y a une limbicité à intégrer. Et tu ne veux pas passer par le mental. Je te félicite. Parce que tu refuses de passer par le mental. Et ce sont les gens qui ils m'ont rappelé quelque chose de fondamental dernièrement dans une formation à Paris. Pendant une journée, la théorie, la physique quantique, il y avait une dame au fond. Mais, docteur, moi je suis venu pour les outils, tout ce que vous avez dit. Même les gens qui ont compris, ils vont l'oublier. Vous avez raison. Ce sont la pratique qui est essentielle. On est le mot, je peux vous expliquer. Ça, c'est qu'on est une image, une projection. C'est comme si tu prends une réalité et tu la projettes sous forme d'image. C'est ça l'hologramme, une réalité projetée en trois dimensions. L'hologramme, c'est une image dans l'espace. Et cette image en trois dimensions, si tu la touches, il n'y a rien. Mais si tu la vois, c'est comme s'il y a un corps. C'est comme s'il y a une réalité. Et alors si tu rentres dans le système hologramme, tu vas dire, oui, c'est des réalités, tu vas toucher cette réalité. Elle devient ton système. Mais si tu es en dehors du système, tu vas la voir comme étant une illusion. Donc ce corps est une projection. Notre réalité se trouve dans un canal. Et on est en train de vivre des expériences pour augmenter notre potentiel informationnel. Les expériences, il faut qu'on apprend, il faut qu'on apprenne. On est dans une école, on apprend les expériences. Mais simplement, il faut faire la bonne expérience, être guidé pour avoir la bonne énergie et la bonne information. C'est très simple. Où est-ce qu'on va? Vers notre réalité illimitée. Aucun intellect ne peut se projeter. Tu veux te projeter maintenant? Où est-ce qu'on va? On veut créer un système. On ne sait pas. Déjà, c'est la grande liberté. C'est l'expansion maximale. C'est le Satchitananda des Hindous. Être conscience spirituelle. C'est ta nature infinie, béatifique, absolue. Ça ne suffit pas? C'est, tu sais, si on se projette, voilà, il y a un processus important. On peut se projeter et dire ce qui va se passer ici, mais ce n'est qu'une projection mentalisée. Il faut expérimenter. Il n'y a pas de connaissance en pratique. Là, il faut rentrer dans la pratique. Et là, tu peux faire une expérience de transcendance et d'avoir ta propre expérience de visualiser ce qui va se passer au-delà. Je vais peut-être te raconter mes expériences, mais c'est pas vraiment un état absolu. Chacun a une expérience spécifique elle, pour lui. Et là, c'est une pratique qui s'impose. Méditation, activer les matrices agissantes, tout ce qu'on propose dans l'approche matricielle.
Et vous, alors, vous êtes sorti du canal?
Non, je suis avec le canal, avec vous. Je suis
vous êtes avec nous?
Ah, oui.
Donc, avec l'expérience que vous avez les outils. Où est-ce que vous nous mettez?
Écoutez, quand on a un corps, on a quelque chose à faire. Quand on a,
vous êtes avec nous, alors?
Tout le monde. Donc, on a un corps, on cherche une expérience parce qu'il nous manque un élément.
Donc, on va être âme.
On va être.
Si on évolue, tu te projettes encore.
Si ces éléments de projection sont très très particuliers, c'est le mental qui va s'amuser. On peut s'amuser, pas de problème. Mais d'abord la pratique. Et vous allez voir, rentrer en pratique, ça et un gramme de pratique vaut mieux qu'une grande. La pratique est essentielle. Il n'y a pas de connaissance. La méditation, l'intégration. Matrice des soufis, vous allez vous ouvrir la réalité, votre réalité. L'éveil. C'est ça l'éveil. L'éveil, c'est cet apport d'énergie-information. Et là, quand tu apportes l'énergie-information qui te manque, tu vas t'éveiller en image. Même l'image se réveille parce que tu deviens le réceptacle de cette réalité. Je t'explique. Il te manque une énergie-information ici pour sortir. Bien. Si tu travailles, tu apportes les éléments nécessaires à travers l'image.
l'image se réveille aussi. C'est ça les êtres réveillés. C'est ça les êtres au septième état de conscience. Ils sont dans un corps d'image, mais ils ont déjà apporté l'essentialité à leur réalité au niveau du calme. Ils ont déjà ramené l'information qui manquait.
Alors, elle bouge déjà ?
Comment elle... Ah oui, elle bouge en conscience. Elle peut sortir. Bien sûr, toi tu es là en image et la réalité sort. Mais ça, c'est un autre qui peut faire là. Mais je voulais simplement, pour ne pas compliquer, vous dire qu'on est dans le canal. Mais il y a des gens qui sont propulsés à travers, au-delà du canal. À travers un travail au niveau de l'image. Et c'est ça l'éveil, c'est ça la résurrection christique, c'est ça. Quand tu intègres l'information, tu deviens lumière christique. Putain, mais tout a un fondement physiologique. C'est pas la religion, c'est la science actualisée par une pratique intérieure. C'est pas les données de la religion. La religion nous a compliqué les choses. Il nous a séparés et l'a détruit. Je crois que la religion a fait plus de mal que du bien. Bien, Habibi. Okay, oui.
Est-ce que pour vous, tout est... Enfin, tout, entre guillemets, et dans la méditation, parce que c'est vraiment la base...
Bonne question. Est-ce que tout est dans la méditation? Il y a trois niveaux. Pas dans tout. Ouais, pas dans la méditation. La méditation est la base, quand même. Premièrement. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le dhikr dans le soufisme, la répétition. Et là, ça va répondre encore à ta question. Quand je prends des sutras, par exemple, des phrases en sanskrit, je les répète. Quand je répète, qui a l'habitude de répéter? Le limbique. Là, je vais jouer un petit tour au limbique. Il va répéter les sutras qui sont structurés sur le plan vibratoire d'une façon très subtile. Ils sont connectés à cette réalité canalisée. Et là, le limbique va s'activer dans l'harmonisation. Donc, méditation et répétition. Le troisième facteur, c'est l'activité, la conscience dans l'activité. Et je crois que ce facteur est hyper important, plus que les deux autres. Parce qu'il y a des gens qui naissent comme ça en conscience, qui ont déjà fait un travail fondamental. Mais ils ne sont pas nombreux. C'est-à-dire la conscience dans l'action. Chaque action, au lieu qu'elle soit véhiculée par le réflexe, elle est véhiculée à travers la conscience. Et cette conscience, bien sûr, la conscience qui va s'actualiser au niveau de l'observateur. Ce n'est pas une conscience inconsciente, c'est une conscience qui a conscience de ne pas être sa propre source d'existence. C'est une conscience qui a toujours conscience qu'elle est observée. C'est ça la trilogie. La trilogie, c'est ça la trinité chrétienne. Ils ont parlé, c'est ça l'objet, l'observation et l'observateur. Objet observé, l'observation et l'observateur.
Ouais, c'est lâcher le mental, c'est-à-dire c'est ne pas avoir de mental, ça veut dire être à l'action dans l'instant présent.
Tout à fait.
Laisser venir les choses et le vivre dans l'action. C'est-à-dire on ne peut pas projeter.
Non.
Puisque
on est rempli.
Chaque instant, tout peut arriver et être à l'écoute de ce qui peut arriver.
Merci.
Et de ce
très
qui
beau.
Arrive.
Très beau. Merci, Habiba. Très beau.
C'est ce qui se pratique beaucoup en fait.
Oui, tu le vois, tout à fait. Ça se pratique. Tout à fait. Le zen insiste sur le vide. Nous, on insiste sur le plein. Parce que le vide est une notion activée par une méthodologie bien connue. Dans le soufisme, ce vide, c'est de l'amour en potentialité. Parce que dans le soufisme, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas cette dévotion intense intérieure. C'est la voie du cœur. Le zen, c'est la voie de la connaissance. Le soufisme, c'est la voie du cœur. Et la fin d'un cycle, c'est la voie du cœur qui va actualiser
l'impulsion parce qu'on a besoin d'aller très vite. Et c'est le cœur qui va transcender le temps et aller encore plus vite. La connaissance est lente. L'amour est le cœur. C'est pour ça que le Christ est venu, la lumière mohammedienne est venue, pour nous apporter cette réalité qu'on appelle la voix du cœur. Ouais, Habiba.
Mais quand on touche, quand on rentre dans son cœur, on est profondément, on est dans l'instant présent, et tout d'un coup, on est dans le don. Il n'y a pas, de toute façon, c'est vraiment.
Tout à fait. C'est spontané.
Et en soi, c'est ça.
C'est la même chose.
Et du coup, on peut travailler avec le mental. On peut parler du mental. Comme on peut parler à chacun de nos corps. On peut aller dans cette mémoire, dans ces cellules mémorielles.
Et redonner la vraie information.
À travers le chakra du cœur. À travers le cœur, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit.
Tout à fait.
À travers le cœur, parce que le cœur ne ment pas. Et qu'à ce moment-là, quand on est dans le cœur, on est dans l'unité. On est dans son unité, à soi, on est dans son histoire, on est dans son intégralité. Et alors là, on peut laisser remonter les mémoires.
Et les purifier.
Travailler dans le pardon. Par le
très
don
juste.
De soi.
Très
et
juste.
Le travail se fait très naturellement, très rapidement.
Magnifique.
Et les mémoires, c'est voilà. Et ça se...
Très beau. Très beau. C'est très bien. Merci, Habiba. Oui. Comment, Habibi?
Alors, là, il y a un élément fondamental. C'est que le cerveau, ça, c'est des travaux récents quand même de pas mal de chercheurs, et j'ai fait une expérience tout à l'heure avec Ursula, avec la grosse machine matricielle que j'ai mis au point, parce que ce que je vais essayer de faire, au niveau pratique, au niveau technique, je reprends mes réflexes de médecin, même si j'ai quitté cette sphère, c'est d'harmoniser le cerveau et le cœur. C'est ce qu'on appelle la corrélation psychocardiaque. Psycho-neuro-psychocardiaque. C'est-à-dire, là, harmoniser les impulsions physiologiques, vibrationnelles du cœur et du cerveau. Souvent, nous, on pense différemment de ce qu'on sent. Et là, c'est la fissure. Et là, c'est les problèmes qui commencent. Comment trouver un moyen pour que les ondes cérébrales deviennent syntonisées avec les ondes cardiaques? Syntonisées, harmonisées, en phase. Et là, je crois que les expériences avec cette machine sont importantes. Ça reste une technique, hein, c'est pas... Elle a fait l'expérience, j'ai fait beaucoup d'expériences à Florence. Les gens arrivent à sentir, parce qu'on a une circulation énergétique, ce qu'on appelle la micro-circulation énergétique, qui n'est pas touchée par l'acupuncture, par l'homéopathie. C'est une circulation d'une nature tellement fine, elle est au-delà de la structure électromagnétique. C'est-à-dire, elle est en nanotesla, c'est tellement faible, mais en même temps, il faut qu'elle soit véhiculée par une entrée. Et là, c'est ce que j'ai essayé de faire avec une équipe, on a beaucoup travaillé, et on a mis maintenant, j'ai mis au point cette machine, et je découvre, je fais des expériences, je découvre, et je crois que ça fait activer cette corrélation entre le cœur et le cerveau.
Et l'élément fondamental pour qu'on puisse intégrer l'amour, c'est actualiser les astrocytes, c'est pas les neurones. Parce que les neurones, c'est la pensée. Les astrocytes, c'est l'intelligence extra-pensée. C'est la réalité de notre potentiel. Et le cœur, dans sa nature expansive, dans sa nature amoureuse, dans sa nature réelle. Oui, Habiba.
Oui, à nouveau, il me semble que quand on parle de cœur, là, à nouveau, on est coupé en partie.
Oui.
Il me semble que c'est la globalité de l'être et bien sûr la base.
Terre aussi, bien sûr.
Et le chakra de base et tout, voilà.
Oui, bien sûr. Le cœur, c'est la résultante. C'est la résultante.
Voilà, c'est sûr que le cœur est très important. Il me semble que...
C'est une résultante.
Au-delà, je dirais, c'est l'être.
C'est la globalité, je suis d'accord. Mais le cœur, dans le sens du noyau...
Non, je parle du chakra racine qui est très important également.
On parle de l'énergie, il y a tout.
C'est le cœur, le noyau. On parle du noyau parce que vous savez que maintenant les chakras aussi commencent à s'unifier. Il y aura un seul chakra.
Mais il faut qu'il soit harmonisé. Maintenant, il y a un grand chakra qui est le chakra qui n'est même pas du cœur. C'est parce que c'est un autre chakra qui se greffe ici et qui est la résultante et qui est nourri par le chakra racine essentiel. Qu'est-ce qu'il y a dans le chakra racine? La chelou, la madre et la cellule mère. C'est la mémoire de l'univers. Mais tout va se focaliser au niveau du chakra. Ouais, et ça fait. Qu'est-ce qu'elle fait quand on aura tout ça? On va rentrer en connexion avec notre réalité qui est dans le canal et la faire propulser. Et là, le vrai voyage commence dans l'amour, l'extension et la béatitude. Ya Habibi, ya Habibi. D'autres questions? Oui, Habibi, Fouk, il nous a manqué, Fouk, avec ses belles énergies. Oui, Habibi.
Dans l'image projetée,
oui.
Où on croit être,
oui.
Tu as dit tout à l'heure que le mental ne peut expérimenter que le mental.
Voilà.
Quand il y a quelquefois des éclaircies, et qu'on a l'impression d'être relié à la transcendance.
Oui.
Cela veut-il dire qu'il y a dans cette image une forme de transcendance qui, à ce moment-là, peut expérimenter ou se relier à la transcendance? Ou est-ce que c'est l'être réel qui active, qui agit d'une façon transcendante sur l'image?
Les deux, dans les deux sens. L'un nourrit l'autre. C'est la relation d'amour entre ta nature canalisée et ta nature projetée. C'est la plus belle histoire d'amour.
Alors, sous quelle forme elle existe dans l'image? Parce que vraisemblablement, ce n'est pas une mémoire.
C'est une information. C'est une information qui est au-delà du temps et de l'espace et qui est transsouvent. C'est une information, même au niveau physique, véhiculé par ce qu'on appelle les ondes vides. Et le neutrino rentre dans cette résonance. Le neutrino, c'est une information. Sans support énergétique, n'a pas besoin d'énergie.
De façon grossière, est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la lumière?
C'est de la lumière lourde.
Oui, c'est ça, lourde.
Lourde.
C'est-à-dire
pas... Non, mais pas photonique.
Noir, par exemple.
Noir. Et lui, il a fait les formations, il parle comme ça, mais... C'est un... Il a fait beaucoup de formations, Fouk, adorable. Oui, Habibi, d'autres questions? Oui.
Je voulais savoir s'il était important pour notre évolution. Là, je ne me rappelle pas de ma vie passée.
Oui, tu n'as pas besoin. Ah, ouais. Mais au contraire, ça peut être un grand handicap. Pour le moment, tu es là pour vivre trois expériences, pour intégrer trois choses essentielles dans l'hypothèse de l'approche matricielle: intégrer l'unicité, actualiser l'effacement et chercher la bonne expérience qui est la cause de ta projection. L'expérience, pourquoi tu es là. Oh, il y a tellement de questions. Ouais, Habiba. Ah oui, bien sûr, heureusement. Alors, on vient, et là, bon, très bonne question, formidable. C'est-à-dire quand on apprend à voyager, quand on apprend à connecter notre complémentarité, si vous voulez, notre réalité condensée dans le canal, et quand on va favoriser les informations, quand il va y avoir une fluidité de passage, même le mental va se raffiner, même le mental se subtilise, il va... être habitué à la transcendance. Les images qu'il va recevoir, les mots qu'il va utiliser, les expériences, on va être sûr que ce n'est pas un jeu du mental, c'est autre chose qui s'active. On sera dans la certitude intérieure. On ne va pas dire à quelqu'un, voilà l'expérience que j'ai vécue, tu crois que c'est du mental ou non? Non. Oh, chaque expérience de la transcendance est couplé avec une certitude. T'as même pas besoin que l'autre. Parce que, dans ces expériences, l'autre, c'est toi-même habillé d'une autre façon. Il y a une interdépendance. Tout est relié dans l'essence. Et tu n'as pas besoin de conforter ou de confirmer ce que tu vis. Et le mental se raffine. Il y a des descriptions plus subtiles. Il va se subtiliser parce que maintenant le mental, il est à un niveau vibrationnel très grossier. Avec le voyage dans l'infiniment bref, ce que j'appelle le voyage dans l'infiniment bref, c'est-à-dire la connexion de votre réalité non manifestée qui est restée dans le passage ou proche de l'état de transition. Dans cette réalité, le mental se raffine. Il va augmenter son potentiel vibrationnel. Et puisqu'on est des structures verbales, l'homme, c'est de la mouvance du langage. Comme disait Lacan, l'inconscient est structuré comme le langage. Nous, on dit le corps dans sa globalité conscience. Et conscience est structurée comme un langage. Quand je vous propulse des messages à travers le langage, il y a une résonance qui va se mettre en place. Le langage est très important. Il est dans un état d'isomorphisme avec l'ADN. Il est en résonance avec l'ADN, le langage. Les travaux de René Tam, qui a fait un travail formidable. C'est un mathématicien, un biolinguistique, qui a trouvé que le langage est structuré en résonance avec l'ADN. Quand j'utilise une phrase où il y a le sujet et le verbe, et l'objet, je fais vibrer mon ADN. Oui, Habibi.
Dans ta démonstration, tu as indiqué cette histoire du canal.
Oui.
Et tu as dit qu'il fallait aller par là-haut.
Oui.
Et comme tu parles du langage, je reprends un peu cette idée. Je me dis, est-ce que ta façon de dire les choses indique qu'il y a par là-haut quelque chose qui est un petit peu mystérieux?
Oui.
Et dans ce cas-là, ta formulation, je peux la comprendre.
Ouais.
Ou alors, il y a quelque chose qui est peut-être infiniment plus simple. Par exemple, je pourrais dire que c'est le projet de vie, simplement.
Oui, tout à fait.
Mais le fait de dire de ta façon, de dire le projet de vie, va induire
Des changements.
Des changements.
Parce que le langage est porteur d'une réalité vibratoire. Quand j'essaie de vous expliquer un événement, vous savez, la description n'est pas la chose décrite. Quand je décris, ce n'est pas réellement ce que je veux décrire, mais les mots nous approchent de la réalité. Mais quand je structure un modèle qui se rapproche le plus possible de la réalité, vibratoirement, on se nourrit. Mais quand je structure un modèle qui est éloigné de la réalité, vibratoirement, je ne me nourris pas. C'est pour ça que le langage est important. Quand j'ai un modèle qui se rapproche et je peux le décrire en termes simples, on n'a pas, il ne faut pas qu'on soit des neurophysiologistes ou des physiciens pour comprendre ça, le bon sens et la conscience. Mais le modèle doit être harmonieux pour que le message soit véhiculé et porteur d'une structure vibrationnelle qui va faire vibrer ma nature. Et tu vas te dire, il y a une réalité là-dedans. Quelque chose qui me... Vibratoirement, tu peux réaliser qu'il y a quelque chose de juste, de vrai. Parce qu'il y a une structure vibratoire implicite à travers un modèle. Mais si tu dis c'est un projet de vie, la structure vibratoire implicite est minime. Le modèle est restreint. Il ne va pas satisfaire mon intellect, il ne va pas apaiser mon mental, parce que le mental doit comprendre pour s'apaiser, et il ne doit pas ouvrir le vortex de la transcendance. Donc la nécessité de mettre en place un modèle cohérent, le plus proche possible de la réalité. Et il doit être véhiculé par un langage vibratoire. C'est pour ça que si je vous donne demain des sutras, je vais les donner en sanskrit, en arabe, pas en français. Ou des lettres hébraïques, c'est des structures qui ont une portée vibratoire plus importante. Oui, Habiba. Alors,
lorsqu'on est connecté justement avec ce mot juste,
vers le créateur. Oui, vers le créateur. Très juste.
Est-ce qu'il est dans le tunnel, au plus près de la lumière, ou bien est-ce qu'il est infusé par notre plan ?
Tout dépend de ta nature vibratoire, de ta nature évolutive. On ne peut pas le savoir. Toi, tu peux le savoir dans tes méditations, dans ta nature. Mais personne ne peut savoir quelle est ta structure. C'est-à-dire dans ton intériorité profonde, tu peux déceler la problématique, ou l'ouverture, ou l'éveil, ou le travail dans un canal, parce que le canal est un canal de lumière. Attention, il n'y a aucune souffrance. Ce n'est que de la joie, que de la joie, et encore de la joie. La tradition qui nous parle de l'enfer a éliminé. Que de la joie et du bonheur et du Satchitananda. Le divin, c'est de la joie pure. Reprogrammez votre cerveau limbique dans la joie pour que vous puissiez intégrer la joie. Il n'y a que l'être joyeux, parce que l'être infini n'a pas besoin de nous punir. C'est un non-sens cosmique.
Comment est-ce qu'on peut savoir où on en est ?
Oui, je crois qu'en méditation, en étendant la conscience, on peut avoir des ouvertures. On peut avoir des ouvertures. Mais ce n'est pas important. Quand on est dans la conscience de l'instant, on sait très bien que l'instant est révélateur du passage à travers le canal. Quand tu vis la réalité de l'instant, c'est la délivrance. C'est ça la délivrance. C'est ça l'illumination dont parlaient les sages. C'est la sortie vers le champ de toutes les possibilités. On peut dire que la sortie du canal vers le champ de toutes les possibilités, comme le nouveau-né qui est pris au piège dans le canal utérin, il ne veut pas parfois sortir parce qu'il croit qu'il va sortir dans une zone encore plus réduite. Quand il sort, c'est un espace immense. Et la même chose, il faut qu'on ait une énergie information adaptée pour qu'on puisse réaliser qu'on ait des structures réellement connectées et réellement divinisées. C'est une belle aventure. Ça mérite d'activer des ouvertures et des vortex au niveau de la conscience. Un beau silence. D'autres questions ? Oui, oui, oui.
Je vais probablement caricaturer, mais bon, tant pis.
Tant pis. Pas un problème. Mais le langage est vibratoire. Tu prends conscience que ce que tu dis est vibratoirement intégré. C'est-à-dire, il faut qu'on apprenne une chose. Jouer avec le langage, parfois, est une grande... On ne prête pas attention à la nature vibrationnelle du langage. Si on explicite une phrase, elle peut avoir un effet thérapeutique, un effet évolutif, ou l'inverse. Non, je m'excuse, je te laisse terminer.
Non, je
ne
sais plus quoi dire. Du point de vue de la source.
Oui.
Si on se met au niveau de la source.
Oui. On va prendre le référentiel source.
Référentiel.
Bien.
J'ai un gars qui commence à avoir des petits intérêts à se relier. Mm-hmm. Et puis j'ai une personne qui tout simplement ne le fait pas.
Elle n'a même pas conscience de la source.
Voilà. Du point de vue de la source, qualitativement, y a-t-il...
Aucune différence. Aucune. Aucune. La source est un champ d'énergie, information illimitée. Il n'a aucune préférence pour X ou Y. Ça, c'est la religion qui cristallise la préférence. Mais, attention, attention, il y a quelque chose de fondamental, Fouque.
Dans un cas, savez, il y en a un qui tourne en rond.
Oui, j'ai compris.
Il y en a un qui va, on ne sait pas où.
Mais il y a un point fondamental de subtilité, c'est important. ce champ de toutes les possibilités qu'on appelle la source, de l'infinitude. On peut ouvrir un vortex et se connecter avec ce champ. Par exemple, un prophète qui vient, il nous parle de la source et il a un message. Bien, la source, elle est illimitée. Elle est le champ de toutes les possibilités. Mais ce prophète a ouvert un vortex spécifique. Un vortex spécifique qui peut être fait d'une grande force, Moïse. Et il a actualisé un vortex de la force cosmique. Parce que si on fait une lecture fine, pourquoi Moïse veut détruire les pharaons? Pourquoi il veut tuer encore? Parce qu'il a actualisé un vortex de la force. C'est un des noms divins qu'on appelle la force cosmique. Mais c'est un vortex, c'est pas la globalité. Christos a actualisé le vortex de l'amour. Ça aussi, ce n'est pas la totalité. C'est un des aspects illimités parce qu'il y a un vortex. Mohammed a actualisé un autre vortex. Hein? De l'intégration de l'autre. Et ce qu'on voit, c'est l'inverse maintenant. C'est complètement l'aspect pervers. Si vous voyez la vie du prophète Mohammed, c'est complètement l'amour et une chose fondamentale, c'est la valorisation de la femme. Il est mort entre les bras d'une femme. C'est la matrice, c'est pour ça que j'ai appelé matriciel. C'est la matrice et la fin d'un cycle est matricielle, c'est du yin cosmique. C'est la femme réelle cosmique, c'est la shakti originelle, c'est l'énergie pure. Et il a actualisé ce vortex. Bien sûr, il n'a pas été compris ni par ceux qui sont venus. Mais ça, c'est un peu tous les prophètes, ils étaient comme ça. Après, les prophètes n'ont jamais structuré de religion. Ce sont ceux qui sont venus après qui ont dogmatisé, structuré. Donc, pour vous dire à tel point que ce champ illimité de possibilités infinies, chaque fois que tu ouvres un vortex, tu as la capacité, la possibilité de prendre ce que tu veux. Et tu peux le nommer Dieu, mais sachez que ce n'est pas la réalité globale et globalisante du Dieu. Un des vortex divins. Et c'est pour ça que chaque religion dit, moi j'ai la gège, mon Dieu est plus fort que ton Dieu. Ça c'est la séparabilité. Oui, tu peux dire un aspect. Mais vortex, c'est plus énergétique. C'est plus au niveau de cette structure énergétique et de ce passage au niveau de la transcendance. Parce que je peux méditer, m'intérioriser dans un vortex précis de l'amour et de me connecter avec les énergies christiques et je suis dans le vortex christique. Je crois qu'à chaque instant, inconsciemment, on est propulsé dans un vortex précis. Parce qu'il y a énormément une infinitude. Et un vortex va nous ramener vers la réalité de l'instant. Et c'est pour ça que si inconsciemment je me branche sur des vortex pervers, je peux attirer des mécanismes négatifs dans ma vie. Et c'est mon choix inconscient. Personne ne m'oblige à faire quoi que ce soit. C'est toujours mon propre mécanisme qui va s'activer en permanence. D'où la nécessité d'être attentif au langage implicite. Je me parle intérieurement en permanence. Et parfois je décris, je crée des choses énormes à travers ce langage. Et après j'ai des conséquences de ce que je fais. Je dis, oh, ça tombe sur moi. Non. Parce que tu te structures à travers ton langage implicite. Et tu fabriques ta forme. La forme est isomorphe au langage. Même mon corps, je le structure à travers mes pensées et mon langage implicite et explicite. D'autres questions, Habibi? Donc on va passer à la pratique. Là, on va vous libérer vers 6 heures du matin. On va faire l'atelier ce soir, puisqu'on est là, pourquoi pas, vous donner les outils. Et demain, c'est prévu qu'on fasse un atelier de 9h30 à 5h. C'est venu comme ça. Si les gens sont intéressés, ils peuvent s'inscrire auprès d'Ursula. Ursula. Donc l'atelier se résume en l'aspect pratique de ce qu'on a dit avec un peu de théorie. Et je vais ramener aussi la grosse machine et je passerai chaque personne pratiquement une demi-heure, selon le nombre, pour sentir cette corrélation neuropsychocardiaque avec cette technique objective. Donc il va y avoir une pratique d'intériorisation. Et en même temps, une pratique avec cette machine-là, qu'on peut objectiver cette forme d'énergie. Parce que c'est une énergie à intégrer. Et le corps est avide de cette énergie information, qui n'est pas tout à fait électromagnétique. Parce que tous les appareils sont souvent connectés à des structures électromagnétiques. Certes, le langage cellulaire, il est électromagnétique, mais ce n'est pas qu'électromagnétique. Ça, on va l'expliquer demain en profondeur, pourquoi il est autre chose qu'électromagnétique, quelle est la nature de l'électromagnétisme, sans rentrer dans les détails scientifiques, parce que l'expérience m'a montré que quand je suis trop dans les détails scientifiques, les gens ne captent plus rien, et ça. Non, l'essentiel, un peu de théorie, beaucoup de pratique demain, on fera beaucoup de pratique. Tout dépend. D'autres questions? Ouais, Habibi. René Thom. C'est un mathématicien et biolinguistique. René Thom, T-H-O-M. Tu vas sur Internet, il a écrit un livre intéressant sur les catastrophes et les anastrophes, les fractales. On peut? Oui, l'inverse. On peut structurer la parole d'une façon harmonieuse pour que l'ADN se structure d'une façon harmonieuse. Mais le problème, ça c'est théorique, le problème c'est qu'il y a des voiles. On ne touche pas d'une façon automatique notre ADN. L'ADN est voilée par des mécanismes de mémoire. Encore la mémoire qui voile le processus.
Est-ce que le produit en l'ADN recharger la parole?
Ah oui, oui, bien sûr. C'est grâce. Le mécanisme est réversible, tout à fait.
Tout à fait. Là, on peut dire la chose suivante. L'ADN, c'est un mécanisme récepteur, c'est une réceptivité, c'est comme une cassette magnétique que j'informe, j'enregistre. L'ADN reçoit les informations, elle va les traduire en processus biologique et la biologie va contribuer à intégrer les processus neurosensoriels, c'est-à-dire la vision, la parole, l'audition, tout ça. Donc c'est un mécanisme circulaire. Il y a un biofeedback dans ce mécanisme. Oui? Un peu plus fort, Habibi, je t'en prie. Je n'ai pas compris. Ah, les transmissions orales, oui? Ah oui, tout à fait. Important. C'est exactement, c'est pour ça que l'initiation avant était de mettre à disciple. Et on vous donne le mantra qui doit être gardé, qu'on ne peut pas divulguer. C'est dans cette vision, c'est vrai, très juste, très juste. Important.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'écrit ou c'était perdu dans le monde, c'est que j'avais écrit en fait. porteur et faire renaître en activant la mémoire.
Tout à fait. Oui, Habiba.
Justement, dans ce cadre-là, quelle est l'importance de la voie du rêve comme processus d'initiation, parce qu'on est plus dans du Shaolin?
Important.
Comment ça se passe?
Très important. Bonne question. Qui nécessite toute une conférence. La voie du rêve. Alors, pour résumer, pour être simple, le rêve est un état de conscience particulier. Normalement, on vit trois états de conscience. L'éveil, le rêve et le sommeil. Alors qu'on est programmé à vivre sept états de conscience. Déjà un point fondamental. Dans le rêve, on quitte l'image, la conscience quitte l'image pour réintégrer l'originalité canalisée. C'est ça le voyage dans le rêve. Normalement, ça, c'est dans le cas normal, parce qu'on souvent on ne fait pas ce processus. L'image projetée, dans le rêve, la conscience va quitter l'image, parce que qui met en mouvance l'image, c'est la conscience. La conscience va quitter l'image pour intégrer la réalité canalisée. L'essentialité quand même. Durant ce passage, durant ce voyage, cette réalité va réinformer la conscience pour redonner les éléments nécessaires à l'image pour qu'elle puisse fonctionner dans le bon sens, pour qu'il puisse répondre aux besoins énergétiques et informationnels de cette réalité canalisée. Mais malheureusement, on ne le fait plus, ce voyage, d'une façon directe. Souvent, la conscience va être captée par ce qu'on appelle les matrices perverses. Et c'est ça, les cauchemars. Et souvent, il y a une grande matrice, énorme, qui est structurée au niveau de la conscience collective, qu'on appelle la sphère astrale, le monde astral. C'est une grande matrice énorme, perverse, et qui se nourrit par l'émotionnalité négative de l'homme. Et là, souvent, quand on veut faire notre voyage nocturne pour réintégrer notre réalité, on tombe. On est piégé par l'astral. Et là, c'est tout un film. Les films commencent. Et on revient avec des messages désinformés. Des messages qui sont plus adaptés à notre réalité. Et les problèmes vont commencer. Donc la nécessité de mettre en place des mécanismes pour que le voyage soit un voyage direct. À ce moment-là, le rêve devient initiatique. Maintenant, le rêve est structuré dans l'astral. Donc, il n'est plus initiatique. Souvent, il n'est plus initiatique. Voilà. Ah, oh, on s'éclate dans l'astral. Ça, c'est sûr. Ça a un charme. Tout ça, il ne faut pas le prendre avec un esprit dualiste de jugement. On constate, il faut apprendre à ne plus juger. C'est un fait. Parfois, je donne l'impression que je juge, mais rectifier en permanence. Dire, ah, tu es en train de juger. Ça me fait du bien. Je reviens, je prends conscience de ce jugement. Parce que parfois, je glisse inconsciemment. Le jugement est un processus qui structure une déformation et qui va accentuer la dualité. Donc, c'est un fait. L'astral, il est ce qu'il est. On s'éclate dans l'astral. C'est une belle remarque. Mais il est ce qu'il est. D'autres questions, mes chers amis?
J'ai une question.
Oui, Habiba.
La télépathie,
ah, bonne question. La télépathie, quand on est ouvert à travers une intuition sur l'autre réalité. Alors, il faut savoir une chose importante. C'est que votre réalité ici ou structurée dans l'ouverture, elle est en connexion avec l'être qui a la connaissance absolue. C'est-à-dire, elle a la connaissance. Quand vous connectez cette réalité, elle a la connaissance. Et là, la connaissance informationnelle,
et lui manque une énergie pour la mettre en marche. Et là, la connaissance. L'intuition, c'est l'ouverture sur cette connaissance. Et tu peux avoir cette notion d'intuition, télépathie. Télépathie dans le sens connexion entre deux êtres, c'est ça. Redéfinis-moi la télépathie, j'ai oublié.
Dans les deux, oui, mais justement, je sais, au départ, c'était entre
deux êtres.
Deux
êtres. C'est ça, la télépathie, je la structure comme ça. Ça peut être comme ça, encore plus profond. Mais si tu es en télépathie avec toi-même, c'est toi-même qui est structuré dans la connaissance, automatiquement la connaissance se propulse dans l'absoluité. Tu peux être connecté avec l'autre parce que l'autre, ce n'est que toi-même. Dans la vision globale, quantique des choses. On est unifié dans l'essence. On est une seule âme. C'est pour ça que l'évolution individuelle n'a pas de sens. On doit évoluer ensemble et se fusionner dans l'essentialité. Là, il y aura un état fusionnel, global, mais chaque être est spécifique et en même temps fusionnel. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas connaître dans ce monde. Dans ce monde, on est séparés, on est des images, mais dans l'autre réalité, on est complètement connecté dans un état fusionnel global. Et c'est ça l'amour, c'est l'état fusionnel. C'est ça le vrai amour. Ouais, oui, bah.
Tout ça quand même connecté vibratoirement et énergétiquement.
Ouais, tout à fait. Ouais. Maintenant.
Oui.
Oui, bien sûr. Parce que ces corps, le corps est un champ d'énergie d'information. Et ce champ est le même que l'autre champ, c'est le même champ. Donc c'est la connexion dans la base, elle est commune. Pour tout. Ouais, oui, oui.
J'ai à peu près compris ce qu'on appelle la théorie de la non-localité.
Ah.
Et alors je me demandais si, en poursuivant un peu le raisonnement, on pourrait dire, en déduire qu'il n'y a aucune personne qui soit arrivée à cela, sinon on serait
tous
arrivés.
Il faut la loi de 1%, l'effet de 1%. Ça, c'est vrai, c'est une loi cosmique, mais il faut un minimum. C'est pour ça qu'il faut initier le maximum de gens pour qu'on puisse arriver à cette loi. Et là, si par exemple 1% arrive à structurer le passage, tout le monde bascule. L'effet de 1%. L'effet Maharishi est dans la... L'effet Maharishi aussi. Oui, Habiba. Ouais. Alors, les trois états, c'est connu, l'éveil, le sommeil, le rêve. Le quatrième état, c'est un état où on apprend à voyager vers notre identité, à faire ce voyage. Donc, c'est un état qui était totalement structuré dans l'enfance, mais on a oublié. Maintenant, il faut des outils pour activer le quatrième état de conscience, qui est un voyage vers notre réalité. C'est ce qu'on appelle la transcendance. On a oublié les clés de la transcendance, c'est le quatrième état. Le cinquième, quand la transcendance devient une réalité vécue en permanence, ce voyage se fait d'une façon rapide et d'une façon consciente. Le sixième, c'est l'état d'amour, quand cette réalité prend forme au niveau de la conscience et quand la nature se cristallise dans ce qu'on appelle l'observateur. Quand il y a cet observateur qui va prendre forme au niveau de ta conscience, le sixième. Le septième, c'est l'état fusionnel. L'état fusionnel. Mais on va peut-être détailler un peu les états de conscience demain. Avec des outils, bien sûr, chaque état de conscience, on vous donne des outils, une pratique pour travailler, pour essayer de mettre en marche la cette réalité. Parce que là, c'est théorique. C'est
C'est harmonieux, c'est un modèle intéressant, il vaut ce qu'il vaut, mais la pratique va lui donner plus de structuration. Il n'y a pas de connaissance sans pratique. On ne fait pas de l'allopathie, on va vous donner un comprimé pour vous. Ça, c'est un non-sens. Il faut pratiquer, mais simplement la pratique doit se structurer dans le non-effort, la chose, la loi cosmique qu'on a oubliée. Tout se fait par effort. Il faut gagner sa vie. Là, il faut transcender ce gain pour arriver à la vie. Aller au-delà de ce gain à travers l'effort. Il faut se structurer dans le non-effort. C'est pas facile, parce qu'on est habitué, mais on va vous donner des outils pour que l'effort surgisse et devienne une réalité. Je ferme les yeux et je voyage vers ma réalité. Bien sûr, je vais activer des structures pour que ce voyage soit réalisé. Il faut de l'énergie, de l'information. Toujours les deux notions de base. Pour que ma conscience s'ouvre, il me faut de l'énergie, de l'information. Pour que je puisse faire ce voyage, je vais fermer les yeux. Tout à l'heure, au début, je vous ai dit, fermez les yeux. Et vous avez... Vous étiez submergé par des pensées. Eh oui. Normalement, quand on ferme les yeux, il doit y avoir un silence. Nous, c'est le moment, c'est l'inverse. On ferme les yeux, un monde de pensées va surgir. On a été conditionné, formaté, à fond. C'est un constat, on ne juge pas. D'autres questions ? Vous avez faim, vous avez soif ? Soit. Ben je vais boire à votre place. L'état fusionnel. Okay. L'autre, c'est toi-même. Eh ben, merci, mes chers amis. Merci. Et merci beaucoup à vous aussi. Vous êtes un groupe formidable. Vous avez une bonne énergie. Une bonne énergie, une bonne information. Merci. Et peut-être qu'on se verra demain des gens, entre vous. Inch'Allah.
Je me propose d'aller à l'extérieur, donc, pour ceux qui souhaitent poser des questions concernant la génération.